Bonjour à tous. Dans cette chronique, la suite de l'histoire de la forêt, cette très vaste histoire qu'a entamée Hervé Gasdon la semaine dernière. Donc on se retrouve. Bonjour Hervé Gasdon.
Bonjour, bonjour.
Pour la suite avec l'arrivée du code forestier.
Eh oui, l'arrivée du code forestier. Donc ce que je disais lors de notre dernière émission, on arrive le 19e siècle, avec en particulier en 1850, le minimum boisé en France, 6 millions d'hectares. La France n'a jamais été aussi peu boisée, alors qu'actuellement, pour comparer, nous sommes à 15 millions d'hectares. Donc la superficie forestière a été multipliée par 2,5 en plus d'un siècle. Donc ce déboisement a des conséquences importantes, aussi bien au niveau économique, c'est-à-dire que la forêt est comme une source de revenus, et une source de vie et de survie, le chauffage, les maisons, donc on a besoin de bois, et le déboisement ne peut pas continuer comme ça. En plus, c'est une atteinte à certaines propriétés, et le code forestier va à être mis en place en 1827. Je signale que les forestiers d'aujourd'hui que nous sommes, on est en grande partie encore sur l'application du code forestier de 1827, qui lui-même s'appuie sur les ordonnances de Colbert, Louis XIV, donc toujours, en 1661 et 1669. Donc une grande partie des ordonnances de Colbert seront retranscrites dans le code forestier. Mais le code forestier est quand même novateur dans pas mal de choses, en particulier pour tout le sud de la France. Dans le nord de la France, il y avait déjà une maîtrise des eaux et forêts. Mais dans le sud de la France, il y avait très peu de présence des eaux et forêts. Le code forestier va soumettre au régime forestier les forêts communales. Les forêts domaniales sont déjà gérées par les eaux et forêts, mais il y en a peu dans le sud de la France. Il y en aura beaucoup plus après, avec l'application des lois RTM. On y reviendra lors de la troisième émission. Et donc, pour l'instant, il y a peu de forêts domaniales dans le sud de la France. Et donc, avec le code forestier de 1827, les forêts communales, qui autrefois étaient gérées par les populations locales, vont devenir gérées par la maîtrise des eaux et forêts. Les maîtres des eaux et forêts, donc avec toute l'organisation militaire des eaux et forêts, les officiers, les sous-officiers, il y a une corrélation importante entre l'armée et les eaux et forêts. Donc ce qui fait que ces eaux et forêts, les personnels des eaux et forêts, vont préserver les forêts communales et les forêts dominiales. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était libre d'accès va devenir interdit, sauf autorisation des agents des eaux et forêts.
J'imagine que ça a dû être assez mal pris par les populations.
Ça a été très mal pris par les populations, puisque nous étions déjà à une période où nous n'étions pas encore au début de l'exode rural. Donc il y avait énormément de population rurale au moment de l'application du code forestier. Donc Nadine Vivier, dans un livre sur le Briançonnais, écrit, je cite un exemple comme ça, qu'après 1827, dans les années 1830, les principales ressources de l'État dans le Briançonnais, ce sont les amendes dressées par les forestiers. Donc vous voyez la pression énorme des forestiers sur la population rurale.
Population qui n'a plus le droit de couper du bois, qui ne peut plus y mettre ses troupeaux.
Exactement.
Comment concrètement ça se manifeste ?
Concrètement, toute entrée dans la forêt, pour quoi que ce soit, est obligatoirement soumise à l'autorisation du forestier et avec une redevance. C'est plus gratuit. Si on coupe du bois, c'est payant. Si on met des troupeaux, c'est payant. Donc il y a une très, très grosse pression. Et Nadine Vivier, dans le même livre, dit que le début de l'exode rural dans notre département, c'est aux alentours des années 1830, et l'application draconienne du code forestier est une des raisons du début de l'exode rural. Et je voudrais citer, pour faire la comparaison avec d'autres pays, ce code forestier aura été le déclencheur de ce qu'on a appelé les troubles forestiers. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui se sont levées contre les forestiers, en particulier dans l'Ariège. Il y a la fameuse guerre des demoiselles entre 1829 et 1831, où les Ariégeois se sont soulevés contre les forestiers et ont chassé les forestiers. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur les mouvements moindres, mais quand même relativement similaires, à Embrun en 1848. Donc là, on arrive sur une période relativement conflictuelle entre les populations rurales dans le sud de la France et les eaux et forêts.
Des eaux et forêts qui protègent aussi, en quelque sorte, plutôt les basses vallées.
Ça va être la politique de reboisement, ça. La politique de reboisement, qu'on verra à la fin du 19e, sera plutôt consacrée au reboisement dans les hautes vallées pour protéger les intérêts économiques des basses vallées contre les crues. Mais le précurseur de cette politique, justement, c'est quelqu'un qui était à Embrun. Il y a eu quelques personnes avant, en particulier le citoyen Roche au moment de la Révolution. Dans la vallée de l'Ubaye, il y a eu beaucoup de débats entre le sous-préfet, un propriétaire terrien, à propos de la meilleure façon de protéger les populations contre les crues, puisque le déboisement est facteur de crues, d'accroissement des crues. Donc, néanmoins, le premier livre qui va commencer à mettre en place une politique, une corrélation entre le déboisement et les crues, et puis la moyen de pouvoir limiter les crues, ça va être Alexandre Surel. Alexandre Surel, en 1841, écrit un livre qui s'appelle « Les torrents des Hautes-Alpes ». Et dans ce livre, il écrit que l'épicentre des problèmes torrentiels en France, c'est Embrun. Plus on s'éloigne d'Embrun, moins il y a le problème torrentiel. Donc je pense que Lubaye était grandement similaire à l'Embrunet. Et Surel, avec son livre, va avoir une portée nationale. C'est le début de la réflexion sur la nécessité du reboisement, à la fois, c'était surtout à cette époque-là, pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que le déboisement était facteur d'accroissement des crues. Et donc Surel va commencer, c'était un ingénieur des ponts et chaussées brillant, il fera une grande carrière et donc il commencera à mettre en place un réseau pour œuvrer pour le reboisement. Parce que le reboisement, en particulier en montagne, c'est extrêmement difficile, vu qu'il y a une forte population qui vit de la forêt, qui survit grâce à la forêt. Imposer les endroits où on aura, les moutons pourront plus paître, où les brebis pourront plus aller, les chèvres pourront plus aller, pour remplacer par de la forêt, c'est pas facile à faire. Et donc c'est un début de prise de conscience. Et Surel sera un d'entre eux. Et puis, avec ce code forestier, on va continuer ce qu'on a appelé les troubles forestiers. C'est-à-dire que il y aura des mouvements importants dans le Var, dans les Basses-Alpes et aussi à Embrun. Au début de la Seconde République, donc enfin, le tout début de la Seconde République, avec les événements de février 1848, le soulèvement des populations contre la royauté et la mise en place de la Seconde République, au mois de mars, à Embrun, 1848, qui c'est qui représente pour la population rurale, la population montagnarde, la population brunaise, qui c'est qui représente l'État? Ce sont les forestiers. C'est pas les militaires, c'est pas les gendarmes, ce sont les forestiers. Et en 1848, il y aura une révolte des Embrunais contre les forestiers. Et les forestiers seront chassés d'Embrun. Chassés d'Embrun, un petit peu comme l'ont été les Ariégeois, les forestiers Ariégeois, en 1829. Donc les forestiers avaient un rôle à la fois de conservation des forêts, mais aussi un rôle de police extrêmement important, et aux yeux de beaucoup, représentaient la politique de l'État dans le sud de la France.
Et ça n'est pas fini de l'histoire de la forêt, hein, puisque dans notre troisième rendez-vous, on va parler des lois de restauration des terrains en montagne, et on est toujours en forêt, et c'est l'arrivée de l'époque de Napoléon III.
On arrivera avec Napoléon III.
Merci Hervé Gazdan.
À bientôt.